Nous n'avons pas pu faire la pause café de 10 heures. Mais bon, nous allons nous réunir maintenant avec la LAC. Je vous suggère donc de commencer de suite et de continuer jusqu'à 11h15, car nous sommes un peu en retard. Il y a plusieurs points dans notre ordre du jour et je vais demander à Olivier de les décrire très brièvement et d'accorder des priorités à ces points de l'ordre du jour pour essayer de mieux profiter du temps dont nous disposons cette matinée. Merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de nous réunir avec la LAC. Je vais passer la parole à Olivier, le président de la LAC. Olivier prend la parole, Olivier Crépin-Leblanc. Merci beaucoup à tous les participants et merci de nous accueillir dans cette salle aussi belle. Nous avons 5 points dans l'ordre du jour, mais comme nous sommes assez contraignés, il y a des contraintes de temps, pardon, nous allons en garder 3. D'abord, l'alerte précoce et les processus d'objection de la LAC et du GAC. Le deuxième point concerne le travail du GAC et de la LAC, un travail en commun pour étudier l'impact du programme des nouveaux GTLD sur les utilisateurs d'Internet. Et le troisième point, comment créer un renforcement de capacité au sein de la LAC. Comme nous avons des contraintes de temps, je vous propose de commencer par le premier point, le processus d'objection et d'alerte précoce de la LAC. Comme nous le savons tous, la LAC et le GAC possèdent des exigences au niveau opérationnel en ce qui concerne les alertes précoces. La LAC, pour la première fois, a pu participer de façon opérationnelle aux opérations de l'ICANN. C'est quelque chose de très important. Un groupe de travail a été créé, ainsi qu'un sous-groupe de travail que nous appelons un groupe de révision. Dev préside ce sous-groupe, donc peut-être que je devrais passer la parole à Dev. Voilà, Dev est à mes côtés et il va pouvoir donc peut-être vous raconter en quoi consiste ce processus. Nous remercions le GAC parce qu'il y a eu un grand débat pour que nous puissions créer ce processus. Donc je vais donner la parole à Dev. Dev prend la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je m'appelle Stevie Dactylocken. Je suis le représentant de la structure At Large et j'ai appartenu à la société d'ordinateurs de Trinité Tobago. En ce qui concerne le groupe de travail sur les nouveaux GTLD, une partie du travail de ce groupe consiste à examiner le processus d'objection. Nous devons donc examiner ce processus d'objection parce que dans le guide du candidat, une des exigences opérationnelles disait que le financement de l'ICANN pour présenter ses objections ainsi que pour le paiement anticipé des coûts était lié au comité de conseil at large. Et c'est la procédure pour cette procédure de présentation d'observation, d'objection. Il fallait donc avoir une vision ascendante à partir des organisations régionales et un processus pour pouvoir approuver ces objections au sein du comité consultatif at large. Par la suite, une fois finie cette procédure, cette objection pouvait être publiée. Lorsque nous analysons donc tout ce processus, deux choses doivent se passer dans le programme des nouveaux GTLD. Lorsqu'on veut présenter des objections, deux étapes commencent. Tout d'abord, la période de commentaires sur les objections qui va du 30 juin au 12 août et par la suite une période d'objection de 7 mois. Pardon, la première, c'est la période de candidature. La deuxième, c'est la période d'objection. Ce que nous avons fait, donc, c'est diviser semaine après semaine, diviser ce temps en semaine pour pouvoir analyser les commentaires publiés pendant la période de consultation publique et les objections formulées pendant cette période de 7 mois. Nous avons donc combiné tout cela dans une procédure unique. Je crois que le document a été distribué aux membres. Même si vous ne pouvez pas regarder, voir le schéma qui est sur l'écran, vous allez pouvoir le voir sur le schéma que vous avez sous les yeux. Pour vous donner une idée de comment fonctionne ce processus, dans ce schéma numéro 1, nous voyons qu'il y a, avant la période de commentaires des candidatures, il y a la création d'un groupe de révision des nouveaux GTLD, le groupe RG, dont la tâche consiste à recevoir les commentaires de at large directement par courrier électronique ou par le biais de appels en conférence. Et donc cette tâche consiste aussi à compléter les pages wiki, voir quelles sont les candidatures qui ont fait l'objet de commentaires semaine par semaine, tenir au courant les râleaux par rapport au délai définitif lorsqu'il y avait des dates butoirs, par exemple pour la période de commentaires ou des dates butoirs pour la période d'objection. Donc dans le schéma numéro 1, on commence par la période de commentaires sur les candidatures. Les personnes qui font partie de ce groupe de révision des nouveaux GTLD donc doivent examiner ces commentaires, ainsi que les représentants de la LAC des 5 régions. Le groupe de révision donc se concentre ou se focalise sur les conflits d'intérêts. Il nous faut donc examiner ces candidatures pour y détecter des conflits d'intérêts potentiels. Cela a déjà été réalisé. Et donc, au cours de la première semaine après la publication des candidatures, nous devons voir comment incorporer toutes ces données dans notre page wiki. Cela a été fait. Nous avons notre propre tableau de bord pour examiner ces candidatures, examiner les commentaires, etc. Sur le schéma numéro 2, qui correspond à la semaine suivant la présentation des commentaires aux candidatures, le groupe de révision communique à la communauté qu'ils ont l'occasion de faire des commentaires et d'examiner les candidatures. Si des pages wiki peuvent être créées, on le fait, on examine les commentaires de la communauté, on les reçoit, on fait des conférences téléphoniques, on encourage la communauté à inclure leurs commentaires pour qu'ils figurent sur les pages wiki. Après, dans le schéma numéro 3, on arrive à la semaine numéro 5. Je pense qu'il y a trop d'informations ici que vous pouvez pas l'avoir. Mais dans la semaine 5 de la période de commentaires sur les candidatures, on fait des appels en conférence. Le groupe de révision analyse les commentaires des pages wiki et décide s'il va présenter un commentaire formel qui sera présenté au panel de révision. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a 6 panels d'évaluation qui concernent le financement, la stabilité, les chaînes de caractère, etc. Une fois que la décision est prise, sur la base de la révision des commentaires dans les pages wiki, un commentaire formel est présenté de la part du groupe de révision et il y a donc un groupe ad hoc composé par les membres du groupe de révision chargé de présenter ces commentaires. Tout d'abord, on procède à la rédaction du commentaire et par la suite à sa présentation sur la page wiki pour communiquer les commentaires de façon définitive. Il y aura donc un commentaire définitif du groupe de révision. Cela, vous le voyez dans le schéma numéro 4, qui correspond aux 2 dernières semaines de la période de commentaires sur les candidatures. Comme je vous disais, Une fois que les commentaires formels sont publiés, on reçoit davantage de commentaires, on reçoit tout autre commentaire qui pourrait arriver, et par la suite, on présente le commentaire définitif. Dans la semaine numéro 8, la LAC doit analyser ces commentaires et décider s'il va les accepter pour faire la présentation formelle dans la période de commentaires publics de l'ICANN. Une fois que cela est approuvé, la LAC fait la présentation formelle des commentaires conformément à la déclaration de politique. Et sinon, les structures RALO et AdLarge peuvent prendre la décision de publier ces commentaires en tant qu'organisation indépendante. Tout cela dans la période de commentaires publics. Après, dans le schéma suivant, on voit la période d'objection aux candidatures qui a une durée de 2 à 4 mois. Et on se concentre sur les objections. La LAC peut faire des objections pour deux raisons, parce que ça va à l'encontre de l'intérêt public ou bien pour des raisons d'ordre communautaire. Cependant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'objections. On se concentre surtout sur les commentaires. Mais pendant la phase d'objection, on peut recevoir encore des commentaires. Il y a une espèce de continuité du processus. Par exemple, il y a des mises à jour, il y a des conférences entre les RALO, des conférences téléphoniques, des visites aux pages wiki. Et puis, dans le schéma numéro 7, nous pouvons voir le cinquième mois de la période d'objection. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a encore des appels en conférence faits par le groupe de révision. Et le groupe de révision décide s'il va faire une déclaration d'objection formelle. 4 RALO doivent l'approuver. Pour recevoir le conseil de la LAC, il s'agit d'un document d'une vingtaine de pages qui doit répondre à un format en particulier pour pouvoir travailler avec les gens qui ont fait les commentaires dans les pages wiki et arriver donc à une déclaration d'objection. Ce brouillon est publié à la semaine numéro 8. Il est révisé par la communauté et une fois que cette période de 6 mois s'achève, le groupe ad hoc va présenter cette déclaration d'objection au RALO pour que les RALO en fassent la révision. Et cela nous amène au dernier schéma, le schéma numéro 9. Nous arrivons donc au schéma numéro 9 où l'on voit qu'une fois que la déclaration d'objection a été publiée, les 5 RALO peuvent maintenant voter sur la déclaration d'objection. Si 3 RALO votent en faveur de l'envoi de cette déclaration d'objection, la LAC doit, à ce moment-là, accepter ces décisions prises par 3 ou davantage de RALO et présenter la déclaration en coordination avec l'ICANN. Voilà une vision générale de la procédure qui est une procédure ascendante. C'est un aller-retour entre la LAC et les RALO et les RALO et la LAC. Olivier prend la parole. Merci, Dave. Je pense que ce panorama général qui nous montre le processus nous fait voir combien on a travaillé pour que ce processus soit équitable pour les candidats et pour les objecteurs. Eder prend la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très complète. Je ne sais pas si les membres du GAC ont des questions par rapport à ce processus qui est mis en place par la LAC et à large par rapport au nouveau GTLD. Je vois l'Italie et le Royaume-Uni qui veulent prendre la parole. Le représentant de l'Italie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais savoir, parce que je vois que c'est une très bonne façon d'organiser l'évaluation. Mais je suis curieux de savoir si au bout de 2 ou 3 semaines, après avoir connu la liste, si vous avez identifié la typologie de problèmes rencontrés. Car, bien entendu, on peut faire des objections, on peut examiner une par une les 1930 candidatures. Mais certes, il y a des typologies de problèmes, des types de problèmes. Et je souhaiterais savoir si vous avez travaillé dans une évaluation initiale des catégories de problèmes. Olivier prend la parole. Merci l'Italie. Je suis Olivier Crépin-les-Blancs. Je ne suis pas encore Stéphane. Voilà, je m'appelle comme ça. Dave prend la parole. Merci pour cette question. Normalement, non. Dans la période de commentaires publics, il faut présenter donc des commentaires sur les candidatures et ces commentaires doivent être adressés spécifiquement à un des 6 panels d'évaluation initiaux. Et si ce commentaire n'est pas présenté de la façon adéquate, il sera ignoré par les panels d'évaluation initiaux. Donc, non, nous n'avons pas encore fait ce type d'exercice. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci. Merci pour cette présentation très claire. C'est très impressionnant. Je vois que vous avez consacré beaucoup de détails, beaucoup de réflexions pour en arriver là. Je souhaiterais savoir si le GAC et les représentants à titre individuel, les représentants du GAC à titre individuel, ont eu l'occasion à un moment ou à un autre de ne serait-ce qu'avoir un échange d'informations au cours de cette période d'objection. Je sais qu'il y a la possibilité d'avoir des réunions régionales entre les RALO et c'est une occasion qui pourrait exister pour cet échange lorsque ces réunions ont lieu pour partager les intérêts communs, les visions des utilisateurs, l'intérêt public, un intérêt général parce que ce serait peut-être très utile de savoir comment les choses avancent en ce qui concerne l'évaluation des candidatures et l'identification de problèmes potentiels. Des problèmes potentiels liés à des domaines en particulier. Et je me demande s'il y a quelque chose que l'on puisse faire pour identifier des opportunités pour que cet échange puisse avoir lieu au niveau du GAC, au niveau régional ou entre les représentants ou avec les représentants du GAC de façon individuelle. Olivier Crépin-Leblanc prend la parole. Merci. Evan Lebibovic prend la parole. Bonjour, je suis vice-président de la LAC. J'ai travaillé dans le processus des GTLD. Il existe l'occasion de participer, notamment dans toutes les parties de cette chaîne. Nous l'avons conçue de façon à ce que ce soit un processus ascendant, orienté par la communauté. Le but de la LAC, c'est qu'il s'occupe de la collecte des objections plutôt que d'être le déclencheur des objections. L'objectif était donc de collecter les objections de la communauté et de les organiser de telle sorte que l'on puisse les gérer tel que Dave vient de vous l'expliquer. L'idée, c'est que nous, on serait l'endroit où les objections de la communauté ou des communautés à large pourraient être présentées. Nous serions chargés de les collecter, ces objections. C'est pour ça qu'il est difficile de vous répondre pour savoir s'il y a eu une évaluation initiale des chaînes de caractères. Car nous espérons que s'il y a des objections de la communauté à large, non seulement dans les gens qui intègrent la LAC, nous espérons que ce processus soit ascendant pour que l'on puisse évaluer ces objections. En ce qui concerne l'occasion ou les opportunités de travailler en commun, il y a différents niveaux. Et nous essayons, dans la mesure du possible, que le modèle ascendant puisse être appliqué. Eder prend la parole. Merci. Y a-t-il des commentaires ou des questions? L'Australie prend la parole. L'Australie, qui est leader du processus d'alerte précoce, l'Australie prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais approfondir un petit peu ce qui a été dit en introduction. La LAC sait que le GAC a une fonction opérationnelle similaire. Nous avons aussi consacré du temps à analyser ce type de processus et aujourd'hui, nous avons deux façons, le GAC a deux moyens de fournir une contribution sur les chaînes de caractères des GTLD. D'un côté, il y a les alertes précoces, à savoir un nouveau type de contribution de la part du GAC. Il ne s'agit pas d'un avis du GAC. Il s'agit plutôt d'une contribution informelle qui peut provenir de différents membres du GAC et qui ont pour but de déclencher une alerte précoce par rapport à certaines sensibilités qui peuvent exister chez certains gouvernements afin que cette chaîne de caractère, cette proposition ou candidature puisse être retirée le cas échéant. Ces alertes précoces peuvent revêtir différentes formes. Ça peut être des objections, ça peut être des avertissements par rapport au fait qu'il y a une question sensible. Comme vous le savez bien, le GAC a écrit au conseil d'administration une lettre indiquant que des alertes précoces pourraient être déclenchées en ce qui concerne la présentation de toutes les candidatures dans un seul lot. Nous espérons qu'il y ait une réponse à notre lettre pour Toronto. Le deuxième type de contribution concerne l'avis du GAC ou le conseil du GAC. Et ici, nous avons trois moyens pour pouvoir fournir ce conseil ou donner ce conseil. Le GAC discute les délais pour ce type de conseil. Mais nous essayons de faire en sorte que l'on puisse donner un conseil dans la réunion d'avril. Nous avons donc ces deux types de contributions et je vais peut-être compléter la question de Marc en disant que dans le GAC et dans la LAC, il existe la possibilité d'échanger des questions, des inquiétudes et même la possibilité qu'il y ait une coordination des inquiétudes, surtout notamment en ce qui concerne les chaînes de caractère qui peuvent affecter la communauté et qui peuvent affecter l'intérêt public. J'apprécie énormément que la LAC ait conçu les processus de façon très ouverte, mais je pense qu'il est important d'en faire un suivi. Je voudrais voir quelle est la meilleure façon de gérer ces objections lorsqu'elles arrivent dans le système de la LAC à travers les espaces wiki pour que les membres qui peuvent avoir des objections par rapport à l'intérêt public ou à l'intérêt de la communauté puissent le faire. Y a-t-il un moyen pour faire un suivi de ces objections? Et je ne suis pas sûre si la LAC est intéressée et est également intéressée à faire une contribution aux discussions du GAC. Olivier prend la parole. Merci, l'Australie. Dev prend la parole. Merci pour cette question. En ce qui concerne la possibilité de faire un suivi des commentaires et des objections, c'est un point qui a été soulevé et c'est pourquoi nous avons un tableau de bord dans la wiki. Je ne sais pas si je peux vous le montrer ici sur l'écran, mais l'idée d'avoir ce tableau de bord répond à l'inquiétude de pouvoir faire une révision rapide de toutes les données statistiques pour avoir une idée de ce que ça donne. Ce tableau de bord montre les commentaires liés au panel d'évaluation ainsi que toutes les raisons manifestées pour les objections. L'idée étant qu'au fur et à mesure que les pages wiki se créent, ces tableaux de bord sont complétés de façon automatique au fur et à mesure que l'on reçoit les commentaires. Au fil du temps, le nombre de commentaires dans les tableaux de bord augmente et l'adlage commence à émettre des commentaires. Ces tableaux peuvent avoir un ordonnancement différent. Le groupe de révision peut à ce moment voir les changements qui se produisent d'une semaine à l'autre. Grâce à ces pages wiki, on peut également voir pour une candidature donnée combien de commentaires ont été reçus par semaine, s'il y a eu un nombre croissant de commentaires ou pas. Et il y aura aussi un courrier électronique qui est envoyé à la liste publique d'at-large. Il s'agit d'un processus ouvert, je le répète, où tout le monde peut faire un suivi des changements et faire une bonne surveillance du processus. Le président prend la parole. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois qu'on est prêt à passer au point suivant de l'ordre du jour. Olivier prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Maintenant, on veut voir si l'ALAC et le GAC peuvent travailler ensemble afin de voir quel est l'impact sur les utilisateurs d'Internet du lancement du programme des nouveaux GTLD. Qui voudrait commencer?
Evan Leibovitch prend la parole. Il y a différentes questions traitées par l'ALAC qui ont soulevé des préoccupations pour ce qui est du lancement des nouveaux GTLD. L'une d'elles a trait à la question du respect contractuel. Nous avons mené une réunion avec le personnel de ce département dimanche dernier. Les résultats ont été mixtes en termes de la réponse reçue. L'une des préoccupations est liée à la question de l'aide solidaire aux co-responsables permettant ou plutôt avoir un RA solide permettant de donner une valeur à l'expansion du programme et que le personnel de l'ICANN ait la possibilité de pouvoir l'appliquer. L'important, c'est d'exécuter le RAA même pour les noms de premier niveau, même avant l'expansion prévue pour les nouveaux GTLD. D'autre part, il y a une quantité ou un nombre de membres au sein du comité de la GNSO sur l'élection de la confiance, le choix et l'innovation. Et il y a des indicateurs pour identifier la confiance et le choix du consommateur parce que la préoccupation est que le comité n'avait pas eu suffisamment de possibilités d'analyser le choix des consommateurs qui appartiennent à l'ICANN. Il faut voir ce qui arrive avec les noms de domaine contre autre manière de trouver des contenus, comme par exemple les recherches par de moteurs sur Internet avec le code QR et d'autres manières. Alors, on a travaillé à travers d'autres moyens par lesquels les utilisateurs d'Internet peuvent accéder au contenu. De manière générale, l'ALAC a créé le groupe de travail des futurs enjeux, co-présidé par moi et par Jean-Jacques Subrenat, et où nous essayons d'abord de faire un abordage à long terme pour chercher des manières différentes de réformer, de modifier les choses. Nous essayons de trouver différentes manières de travailler ensemble pour pouvoir avancer dans ces aspects. Merci beaucoup. Heather prend la parole. Merci beaucoup. Vous avez des commentaires à faire? Les États-Unis? Les États-Unis prennent la parole. Je m'excuse. Nous avons un tout petit problème avec le micro. Je veux vous remercier de votre présentation et je tiens à signaler que nos soucis sont assez semblables. On en a déjà parlé dans des réunions précédentes, mais vous savez qu'à partir du communiqué du Costa Rica, on est plus ferme pour ce qui est des liens. Nous voulons améliorer le RAA et nous voulons voir les recommandations de l'équipe de révision ainsi qu'essayer d'incorporer ces révisions dans le RAA et ailleurs. Le besoin critique d'assurer que la fonction du respect contractuel soit faite de manière efficace, de manière que nous allons parler avec les mêmes mots sans doute et nous allons inclure des commentaires très semblables dans le communiqué découlant de cette réunion. C'est bien de voir que les deux comités consultatifs soient en syntonie. Merci. Les États-Unis, l'Australie, s'il vous plaît. L'Australie prend la parole. Merci, Madame la Présidente, et merci de la présentation. En premier lieu, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue des États-Unis. Je crois que ceci met en évidence que nous avons des intérêts partagés dans ce domaine. Je suis très intéressée sur le travail à long terme. Nous sommes très intéressés aux amendements des organismes d'application de la loi et des modifications du RAA. Nous sommes très intéressés à la fonction du respect contractuel, mais ce qui intéresse surtout, c'est l'abordage à long terme que vous avez mentionné. Peut-être que vous ne l'avez pas mentionné, mais il y a eu une discussion entre le GAC et le conseil d'administration, le personnel, les bureaux d'enregistrement et les registres dimanche dernier sur la structure et l'industrie des noms de domaine. Et le GAC a signalé et a demandé que cette discussion menée au Costa Rica a créé beaucoup de questions à traiter d'après notre perspective. Nous espérons que ceci fasse partie d'un débat continu pour travailler sur l'industrie des noms de domaine. Il y a quelques questions en particulier qui sont apparues, tout au moins à titre personnel, à savoir quel est l'abordage, quels sont les contrats, les relations indirectes qui ont été établies. L'accréditation dans un site et pas ailleurs. Moi, je voudrais analyser ces questions à un niveau plus général. Il semblerait que l'ICANN peut jouer un rôle de supervision plus élargi. Puis, il y a tous les détails, toutes les particularités du point de vue du respect contractuel, de la conformité contractuelle. Puis, il faut faire valoir tous ces contrats de manière claire, transparente, indépendante, cohérente et uniforme. Je suis donc très intéressée à ce travail. Merci beaucoup. Madame la Présidente prend la parole. Merci, l'Australie. Olivier prend la parole. Pardon, Jean-Jacques Subrena prend la parole. Je vais faire deux commentaires. Tout d'abord avec le vocabulaire, puis la structure. Quant au vocabulaire, je suis vraiment un peu confus que l'on continue à utiliser le mot « négociation ». Comme un membre du Conseil l'a déjà mentionné, il ne s'agit pas d'une négociation, il s'agit de l'exécution, de l'application. Cela veut dire respecter ou ne pas respecter les exigences pour l'accréditation. Je crois donc qu'il faut être clair là-dessus. Et peut-être, lorsqu'on se réunira avec le personnel entre nous, il faudra que on ait une idée concrète. Il ne s'agit pas de la renégociation de chaque contrat. Il y a une norme. Il faut être conforme à la norme. Deuxièmement, la structure. Dans les derniers mois ou dans les dernières années, en fait, je me suis rendu compte que le respect est quelque chose de confus parce que la structure au sein de l'organisation, la conformité est ambiguë. Je ne suis pas sûre que ce soit l'impression originale, mais bon, c'est comme ça. Et le personnel du secteur juridique dit que, eh bien, cela appartient à la conformité. La conformité dit, eh bien, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et des fois, il y a des aspects juridiques trompeurs et il faut donc aller consulter le département juridique. Lorsque on a mené ces débats au sein de la LAC, nous avons pu nous réunir et parler de quelque chose de très important, à savoir la nomination d'un nouveau PDG. Nous avons utilisé cette opportunité pour parler au nouveau PDG avec le PDG interim pour leur manifester qu'on a besoin d'un système d'une seule fenêtre pour que les membres du GAC ou de la LAC, dès qu'ils ont une préoccupation, ils puissent la manifester et qu'ils puissent recevoir la réponse dans une seule fenêtre ou dans un seul fichier. Moi, je connais le GAC parce que j'étais ambassadeur, mais je crois que la LAC n'est pas intéressée à qui appartient le travail. Merci, répond Madame la Présidente. D'autres questions là-dessus? Vous voulez répondre à l'Australie ou par rapport à l'approche à long terme? Evan Leibowitz manifeste que le premier produit a été un document présenté à la communauté de l'ICANN pour la première fois cette semaine. Et où peuvent participer les membres du GAC? Il ne s'agit pas d'une recommandation d'ALAC, mais d'un document de travail pour commencer à parler des besoins à long terme pour ajuster l'ICANN, pour s'adapter et pour établir un point entre le statu quo et la destruction totale. Le modèle multipartite est important pour nous, mais il y a des questions d'intérêt public qui doivent être abordées et c'est pourquoi dans ce document, on donne un panorama très général de ce qu'il faut faire. Outre les révisions de la GNSO ou de la LAC, au lieu de travailler de manière indépendante, on voit la manière de faire ce travail ensemble pour mieux servir à l'intérêt public au sein de l'ICANN. Tel que je l'ai déjà mentionné, nous allons envoyer ce document de travail, nous allons vous l'envoyer et nous espérons que le GAC, au niveau du GAC ou individuellement au niveau pays, que vous puissiez participer de ce travail avec nous. Heather remercie et dit qu'elle attend le document. La Nouvelle-Zélande prend la parole. Merci. Tout brièvement, je voudrais commenter les propos de Jean-Jacques au Costa Rica. On a posé des questions au Conseil sur l'abordage structuré de l'exécutabilité des contrats. Ici au GAC, on ne peut pas donner du conseil, mais il y a des questions structurelles qui ont trait à la maintenance du contrat et à la supervision. J'espère que nous puissions voir ce document de travail parce que je crois qu'il y a des structures au sein de l'ICANN qui doivent être révisées et qui ont trait à l'exécutabilité des contrats. Merci, la Nouvelle-Zélande. Madame la Présidente prend la parole. Peut-être pourrions-nous consacrer quelques minutes au dernier point de l'ordre du jour, une proposition de la LAC d'avoir une académie. Et je crois que nous pouvons connaître un peu mieux ce que la LAC pense là-dessus. Olivier prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je cherche Sandra. Je ne sais pas si elle est arrivée. C'était elle la responsable. Ah, c'est Tijani. Tijani Benjamin a la parole. Tijani prend la parole. Comme Sandra n'est pas arrivée, je peux parler de cette question-là. Comme vous le savez tous, la LAC a proposé d'établir une académie de l'ICANN pour organiser toutes les activités de formation de l'ICANN. On a demandé au personnel une action statutaire pour établir le futur leadership de l'ICANN. Cela veut dire que les gens qui seront désignés ou qui est désigné par le comité de nomination et vous, membres du conseil de la GNSO, etc., de la LAC, du conseil de la CCNSO, etc., etc., que vous soyez en mesure d'y assister. La LAC a manifesté ceci de la manière suivante, et ceci a démarré au Costa Rica. La LAC a pris contact avec les parties intéressées de l'ICANN, les autres regroupements, pour travailler dans cette académie de l'ICANN et pas dans l'académie d'ALAC ou de large. Nous avons maintenant un groupe élargi. Je crois que ce groupe va se réunir demain pour constituer un comité élargi pour continuer à traiter de ce sujet. Olivier reprend la parole. Merci, Tijani. Voici une partie de cette création de capacité à large. Puis, il y a des assemblées générales et d'autres événements qui se développent dans les régions où se développe la réunion de l'ICANN. Par exemple, à Dakar, nous avons vu toutes les structures africaines qui se sont réunies sur site, les structures à large. Et il y a eu un programme de renforcement des capacités de 9 à 11 heures. Et puis, ils ont travaillé sur la liste de publications aussi au Costa Rica. On a eu aussi la réunion de l'ACRALO et des structures à large pour continuer avec ce programme de renforcement des capacités. Tout cela a été très utile. Le feedback a été très bon. On nous a dit que c'était bien d'arriver dans une réunion de l'ICANN pour savoir de quoi il s'agit. Ce n'est pas la même chose de le faire à distance. Le face-à-face est mieux, c'est différent. Et ce programme de renforcement de capacités tient compte de tout cela. On voudrait l'élargir, mais bien sûr, il doit y avoir un budget. Et nous savons que c'est quelque chose qu'il faut faire par étape, hein. Donc, on veut que les gens s'approchent de l'ICANN et tout cela a trait au programme de formation et de diffusion. Et ceux qui sont au sein de l'ICANN doivent comprendre de quoi il s'agit. Ils doivent participer des débats. Ils doivent faire leurs apports, l'apport de leur regroupement. Vous avez des commentaires? Le Kenya a la parole. Merci à l'AC de votre présentation sur le renforcement des capacités. Ma question est peut-être très claire, mais quelle est la différence entre ce que vous proposez et le programme de fellowship? Je ne sais pas si vous savez que le GAC a sa propre stratégie de renforcement des capacités pour les nouveaux membres. Nous voulons donc que ceci soit un processus continu. Nous voulons savoir quelles sont les différences. Qu'est-ce que vous proposez? Il s'agit de quelque chose à long terme. Enfin, on veut savoir. Olivier prend la parole. Merci, le Kenya. Merci, Salanieta. je veux vous souhaiter la bienvenue. Et pour ce qui est de la question qui vient d'être posée et qui est très importante, je dois dire qu'on a parlé de ça dans la communauté à large. Il faut identifier les activités de renforcement des capacités que l'on réalise déjà. Nous savons que la CNSO a un groupe de travail ad hoc, un groupe fermé pour le renforcement des capacités. Nous savons aussi que le GAC en a un et nous connaissons le programme de fellowship de l'ICANN. L'une des choses que l'on voulait faire dans cette réunion en particulier, c'est de travailler dans un sondage pour évaluer le niveau de travail que l'on fait à l'heure actuelle. Et nous savons qu'il y a des instances où l'on double les ressources et nous avons besoin de minimiser tout cela pour être plus efficace. Nous savons aussi qu'il y a des alliances globales qui fonctionnent très bien dans les réseaux opérationnels avec le GAC, avec des ministères, etc., liés à la capacité, à la formation des régulateurs. Nous savons qu'en Afrique et en Asie-Pacifique, ils sont plus familiarisés avec ce genre de questions. Par exemple, au mois de juillet, il va y avoir des activités spécifiques et au sein de l'ICANN, nous avons des organisations comme par exemple la RIP, l'APNIC, NCC, qui travaillent. Et l'idée est d'évaluer et présenter des propositions. Nous voulons consulter la communauté pour savoir quelle est la meilleure manière de travailler de manière conjointe et de renforcer les capacités. Quand on parle de renforcement des capacités, on parle de participer des processus de développement des politiques au sein de l'ICANN. Olivier prend la parole. Merci, Salanieta. Pour répondre à ce qu'Alice a mentionné, mon premier fellowship a été au Pakistan en 2009 et puis en 2010 à Nairobi. Le travail de fellowship lui-même arrive à donner une présentation de ce que c'est de l'ICANN. La formation du fellowship est vaste et c'est une formation concentrée et il est vraiment difficile que les fellows participent du processus. Et ce programme favorise la participation des gens dès que possible. Il encourage ce programme de renforcement des capacités que l'on débat actuellement est bien plus vaste. C'est pour tous les nouveaux venus qui appartiennent aux différents secteurs de l'ICANN. Ils développent leur capacité, ils renforcent la capacité, ils ont la possibilité de travailler dans des processus de développement de politique. Et voici donc une différence entre le programme de fellowship et ce programme d'académie que nous proposons. Il s'agit d'un programme plus vaste. Il y a des gens qui participent ou qui vont participer. Des gens de pays développés qui ne font pas partie de, qui n'appartiennent pas au programme de fellowship. Et on ne peut pas nous comparer avec le programme de fellowship. Ce programme de fellowship est très important et il respecte ses objectifs. Mais ceci est différent. Olivier reprend la parole. Merci beaucoup. Fouad, c'est en quelque sorte une pyramide. Il y a différentes étapes et l'Académie de l'ICANN serait une des premières étapes ou un des cubes qui entre dans le schéma complet. Et pour créer les leaders pour l'avenir, notamment pour qu'ils soient opérationnels depuis le premier jour. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus à l'ICANN pendant longtemps et ne connaissent qu'une partie de l'ICANN. Ce que nous voulons, c'est vous donner un panorama général de l'ICANN dans peu de jours pour améliorer non seulement la partie opérationnelle du leader qui va prendre la fonction, mais pour toute la communauté et pas la structure de silos que nous voulons éviter. Merci, Olivier, des commentaires. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci de votre présentation. C'est une proposition qui doit être bienvenue parce que l'on parle de renforcement de capacité et de donner une place pour recueillir des informations et pour que ce modèle multipartite soit véritablement développé. C'est bien pour que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement du modèle, la modalité de participation, qui fait quoi, quels sont les différents rôles, mandats, responsabilités, mécanismes, etc. Je crois que cela pourrait être traité dans la réunion, lors de la réunion d'automne. Je ne sais pas si on pourra présenter nos apports à Heather à temps pour voir les fondements, pour voir d'inclure dans l'Académie, la manière d'opérer du GAC, tout ce qui est lié aux capitaux. Enfin, comment travaille l'ICANN? Comment on peut aller au-delà de la réunion de l'ICANN dans d'autres forums, etc. Je vous remercie. Heather prend la parole. Merci, le Royaume-Uni. Je crois donc qu'on peut clôturer la session ici. Merci encore une fois aux membres de la LAC d'être venus dans cette réunion et de nous avoir présenté différentes questions. Nous croyons qu'il y a des objectifs partagés, des préoccupations partagées. Et j'espère bien que nous pourrons continuer à travailler de la même manière. Olivier prend la parole. Merci beaucoup. Et j'espère que cette réunion ait été productive aussi bien pour vous.